insister sur l'importance de tenir encore ces procès, même 30 ans après.
Je me suis dit finalement, non, je vais vivre, je vais survivre.
Et maintenant, c'est quoi ? C'est vivre, ce n'est pas mourir, c'est vivre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au dernier épisode de notre série podcast Kiboka 30, une série réalisée par Iboka Mémoire et Justice Belgique dans le cadre de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ce programme est financé par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est présenté par Ernest Sagaga, président de l'association Iboka Mémoire et Justice Belgique. Et pour ce dernier épisode, mon invité est Maître Alexis Dessoif, avocat au barreau de Bruxelles, ancien président de la Ligue des droits humains en Belgique et actuellement vice-président de la Fédération internationale des droits humains, le FIDH. Maître Dessoif a également représenté Iboka Belgique, qui s'est constitué partie civile dans l'affaire de M. Ngondouimye Emmanuel, alias Bomboko. Il nous livre d'abord son avis sur l'importance de la justice et le processus judiciaire en Belgique pendant ces 30 dernières années, notamment les affaires concernant les personnes accusées de crimes commis pendant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
Alors, les procès pour le crime de génocide sont évidemment des procès qui aboutissent devant la cour d'assises compétente pour juger les crimes. Et donc, ce sont des procès qui ont la particularité d'être des procès avec un jury populaire et qui prennent du temps. C'est souvent des procès qui durent 2 à 3 mois. Les premiers, à partir de 2001, ont été fortement médiatisés. Et il y a également ce rôle pédagogique d'un procès d'assises. Alors, effectivement, je suis avocat depuis 30 ans. Et les deux fois où j'ai plaidé devant la cour d'assises pour représenter des victimes et des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, j'ai commencé ma plaidoirie en insistant justement sur l'écoulement de ce temps, 30 ans. Qu'est-ce que vous faisiez il y a 30 ans? Et le génocide des Tutsis au Rwanda, qui cet indicible génocide avec pratiquement 1 million de tués, ne laisse personne indifférent. Et moi, en entendant tous les témoins défiler devant la cour d'assises, je me disais, qu'est-ce que je faisais il y a 30 ans? Eh bien, moi, je terminais mes études de droit et je suivais dans la presse, je terminais mes études de droit en Angleterre par le programme Erasmus et je suivais dans la presse anglaise les récits partiels parce que ça ne faisait pas toujours la une que ça méritait. On y reviendra, mais des événements du génocide au Rwanda en 1994. Le temps des enquêtes, très rapidement, il y a eu des enquêtes avec un juge d'instruction magistral, Damien Van der Merch, qui a été en commission rogatoire au Rwanda dans les années 95, 96, 97, pour finalement aboutir à la tenue de ce premier procès. Il faut savoir qu'il y a eu pas mal de pression aussi pour éviter que ce procès ait lieu, parce que notamment ce procès impliquait deux bonnes sœurs et que l'Église catholique n'avait pas envie que ces deux bonnes sœurs soient poursuivies pour le crime de génocide. Le juge d'instruction a tenu bon, n'a pas faibli face aux pressions, et ce procès a pu avoir lieu avec une grande attention médiatique. Depuis, il y en a eu en 2001, les années qui ont suivi. Malheureusement, il y a eu une pause pendant une dizaine d'années. Et puis, on a eu en 2023 le procès contre Twahirwa et Bassabose, et puis le procès que vous évoquiez ici en 2024. Il y a encore beaucoup de procès à tenir. On peut regretter que la Belgique n'avance pas plus rapidement. Et moi, je voudrais insister sur l'importance de tenir encore ces procès, même 30 ans après. Il y a deux raisons. D'abord, l'importance pour les victimes et les rescapés. Parce que c'est important que les victimes soient reconnues comme victimes, qu'on les reconnaisse comme victimes du génocide et qu'elles puissent obtenir justice. C'est une phase indispensable avant de pouvoir envisager la réconciliation. Parce que le risque, c'est toujours qu'on mette la réconciliation en absolue priorité, c'est évidemment indispensable, en particulier dans le contexte rwandais, où les bourreaux et les victimes, les génocidaires et leurs victimes vivent dans les mêmes villages, sur les mêmes collines, la réconciliation est nécessaire. Mais elle ne peut pas se faire au détriment de la justice, de la réparation, de la reconnaissance comme victime. Sinon, c'est une réconciliation imposée. Et donc, la tenue de ces procès, les procès qui ont eu lieu au Rwanda, mais donc aussi des procès en Belgique, en France et dans d'autres pays européens, sont absolument indispensables pour les victimes. Par ailleurs, c'est indispensable parce qu'il y a des auteurs, des génocidaires, qui sont venus se réfugier en Belgique, en France, qui souvent ont été reconnus réfugiés avec des récits mensongers, qui ont obtenu la nationalité belge et qui ont pensé pouvoir échapper à tout jamais à la justice. Et vu que nos pays les ont accueillis, eh bien nous avons une responsabilité particulière à ce que quand des victimes qui parfois les croisent dans les rues de Bruxelles ou dans un taxi, eh bien quand elles déposent plainte, cette plainte soit traitée et que ces personnes soient jugées. C'est indispensable. Et l'écoulement du temps ne fait pas que le délai raisonnable est écoulé. Pour les crimes les plus graves, ce n'est pas pour rien que ces crimes sont imprescriptibles. Le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité, ce sont des crimes imprescriptibles. On juge d'ailleurs encore aujourd'hui des nazis qui ont travaillé dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination et qui sont parfois âgés de plus de 90 ans. Eh bien, c'est dans cette même logique-là qu'aujourd'hui, même 30 ans après, et dans les années à venir, des personnes accusées de génocide seront jugées à Bruxelles, à Paris. Mais il faut que nos pays fassent un réel effort pour accélérer et traiter efficacement ces dossiers, parce que sinon, il y a des personnes qui vieillissent, qui ne vont plus être capables d'être jugées. Je pense notamment, par exemple, à Bassabose dans le procès avec toi, Iroi, qui a été interné parce que sa santé mentale, sa sénilité empêchait qu'il soit jugé, qu'il soit condamné. Il a été déclaré coupable, mais il a été interné. Il n'y a pas eu de sanction pénale parce qu'il n'est plus dans l'état mental que pour pouvoir être condamné à une peine de prison. Et donc, on doit faire ce travail d'organiser ces procès et on le doit en fait à toutes les victimes et tous les rescapés. Pourquoi ? Parce que la Belgique, la France, les pays européens, la communauté internationale a une responsabilité dans ce génocide. Nous avons abandonné les Tutsis du Rwanda en 1994. On a évacué nos ressortissants et on savait qu'ils allaient se faire massacrer purement et simplement. On a détourné les yeux, on est parti. La Belgique a convaincu aux Nations Unies, la communauté internationale, qu'il fallait retirer les forces des Nations Unies. Et donc, on a une responsabilité morale, voire pénale, d'une forme de complicité, parce que ce génocide aurait pu être arrêté très très rapidement et on aurait épargné des centaines de milliers de vies. Et donc, on a une dette de rendre justice pour les victimes, pour les rescapés.
Mais vous êtes un homme de droit, vous êtes un professionnel de droit, mais vous avez donc la capacité de compréhension de ce qui s'est passé, mais vous avez également la chance d'échanger avec les jurés pendant ces procès. Est-ce que vous avez l'impression que ces jurés, qui sont des citoyens et citoyennes normales, comme tout le monde, qui sont juste appelés à venir rendre justice, est-ce que vous croyez qu'ils ont la même compréhension de ce qui s'est passé au Rwanda, de ce que représente le crime de génocide ?
Alors, il y a eu des tentatives de discréditer ces procès en disant « mais enfin, ça ne rime à rien d'organiser un procès d'assises avec un jury populaire, des personnes qui ont vaguement entendu qu'il y a eu un génocide ou des massacres au Rwanda, mais qui ne comprennent pas à qui, d'abord, c'était il y a longtemps, et donc que ça ne rime à rien de juger des personnes si longtemps après, à des milliers de kilomètres du lieu du crime, etc. » Et ça, c'est vraiment une tentative pour essayer d'échapper à l'organisation de ces procès, parce que l'histoire de ces 8 procès montre, donc il y en a eu 8, je pense, 7 ou 8 depuis 2001, montre comment, grâce notamment aux témoins de contexte qui viennent au début, quand effectivement on tire le jury au sort, 12 citoyens tirés au sort, plus 12 réservistes qui savent pas au moment où ils sont convoqués que ce sera pour juger un génocide, pas juger un génocide, juger des génocidaires qui ont participé au génocide, qui ont commis le génocide parce qu'on juge des personnes. C'est pas le procès du génocide, on l'a assez répété pendant les procès, c'est le procès de personnes qui sont accusées d'avoir commis le crime de génocide. Et grâce aux témoins de contexte qui viennent des historiens, des journalistes, qui viennent expliquer ce qui s'est passé, qui viennent aussi raconter l'histoire du Rwanda, l'implication et le rôle de la Belgique en tant que pouvoir colonial puissance coloniale, avec tout ce que ça a entraîné, en finalement mettant les germes des divisions ethniques entre Tutsi et Hutu, avec finalement la responsabilité de la Belgique là-dedans, permet au jury de comprendre en amont ce qui était la situation au Rwanda, ce qui a pu amener à ce basculement qui a été le génocide, avec son déclenchement après l'attentat contre l'avion. Et finalement, après avoir ensuite, après les témoins de contexte, entendu des témoins survivants, des témoins des faits, qui confrontent l'accusé avec ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont vu de l'accusé, de son comportement, eh bien, les jurés arrivent à juger tout à fait sereinement. Et comme après chaque procès d'assises, on a l'occasion de discuter avec les membres du jury. Et une fois passée leur première surprise d'être réquisitionnés pour un procès qui va durer 2 ou 3 mois, ils sont très vite pris par l'intérêt qu'ils portent à la cause. Ils posaient très vite des questions très très pertinentes. Pour revenir sur une anecdote, c'est qu'après chaque témoin, on peut poser des questions. Comme avocat, on pose des questions aux témoins, que ce soit les témoins de contexte ou les témoins des faits. Et souvent, il y avait des questions. C'est d'abord le jury qui pose des questions que je pouvais barrer parce que des questions que j'avais prévu de poser ou que j'avais envie de poser en entendant le témoin, eh bien, des membres du jury l'avaient posé avant moi. Et tant mieux, ça montre qu'on avait un jury, qu'on a des jurys qui suivent, qui sont intéressés. Et après, à l'issue du procès, aucun ne regrettait d'avoir été embrigadé dans cette aventure de devoir mener un procès comme ça, d'y participer, d'y contribuer. Au contraire, il y avait une forme de fierté d'avoir accompli son devoir de citoyen et d'avoir appris tellement et tous... Et toutes trouvaient que ça avait du sens, ce qu'on leur avait demandé de faire. Personne n'a dit « mais ça n'a pas de sens ». Non, tous étaient convaincus du sens que ça avait et de l'importance de ces procès. Aucun ne regrettait l'expérience. Et donc, on peut regretter qu'il y avait moins d'attention médiatique pour les derniers procès, alors que c'est un sujet de société très important. On parle beaucoup de décolonisation pour l'instant, et que, ce qui est une revendication extrêmement légitime. Et je pense que des procès comme ceux-ci sont importants dans ce processus-là aussi, sur le rôle d'un État colonial, de sa responsabilité dans ce qui s'est passé après. Et donc il y a un travail de pédagogie à faire aussi, surtout à l'heure où on dit « du plus jamais ça ». Et donc davantage d'attention médiatique serait utile dans ce genre de procès pour informer le grand public de ce qui se passe et des tenants aboutissants, des enjeux au niveau de la justice internationale et de notre responsabilité à contribuer à rendre justice.
Alors, vous parlez de la pertinence des questions des jurés, des membres du jury, qui montrent qu'ils ont finalement compris, qu'ils ont saisi la gravité et l'ampleur du crime de génocide. Mais pendant ces procès, on a également malheureusement constaté, du côté de la défense, un discours négationniste. Quelle a été votre expérience dans ces procès ?
Oui, effectivement, c'est surtout dans le procès Twairwa et Bassabose, la défense de Bassabose et de l'accusé Bassabose, où finalement, systématiquement, la défense essayait de déplacer le débat sur... qui devait se concentrer sur les faits commis et les crimes commis par l'accusé, de le déplacer et au lieu de faire le procès d'un génocidaire, d'essayer de faire le procès du génocide, en remettant en cause des choses qui sont documentées, étudiées, incontestables, sur le fait que c'est bien le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Et cette défense négationniste, elle est extrêmement pernicieuse. On parle de génocide au Rwanda, on parle des événements, on parle de massacres, on parle de double génocide, de génocide du FPR contre les Hutus, ou du FPR qui a mis en scène son propre génocide pour pouvoir prendre le pouvoir. Et voilà, double, triple, quadruple génocide avec ce qui s'est passé dans, et ce qui se passe dans l'Est du Congo dans les années qui suivent le génocide de 1994. Et alors on se base sur des écrits ou des soi-disant études pour essayer de donner de la force à ces arguments, en fait pour distiller le doute. Donc c'est évidemment, le but c'est de distiller le doute dans l'esprit du jury et c'est finalement pour pouvoir dire « c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez ». Et du coup, c'est tellement compliqué que nous ne pouvons pas prendre position. Il y a des responsabilités des deux côtés. Et c'est vraiment ces méthodes pernicieuses, vicieuses, de diluer la responsabilité en partant, par exemple, du double génocide. Parce que s'il y a un génocide de part et d'autre, finalement, ça devient une co-responsabilité, un match nul. Et donc, pourquoi juger les uns et pas les autres? Et donc, on dilue la responsabilité. Il n'y a plus aucune personne sensée qui ose contester le fait qu'il y a bien eu un génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc, ils sont passés au stade suivant, plus intelligent, entre guillemets, pour arriver à diluer leurs responsabilités, à semer le doute par toute une série d'argumentations. Et il faut faire extrêmement attention par rapport à ça, parce que c'est d'abord nier l'histoire, et nier l'histoire, c'est dangereux. C'est, comme disent les anglo-saxons, ajouter l'insulte à la blessure, to add insult to injury. C'est pas pour rien que finalement les discours négationnistes sont pénalisés, sont incriminés dans la loi pénale. Et si on a dû intégrer ça dans notre législation, parce que malheureusement c'était une réalité, ce négationnisme minimisait le génocide, voire tenir des discours qui le nient, c'est finalement le banaliser, c'est inciter à la haine, à la discrimination. Et donc c'est une infraction pénale, je pense, à juste titre, parce que nous devons protéger notre histoire commune, notre histoire avec un grand H, et nous avons cette responsabilité commune, d'autant plus vu notre responsabilité dans la commission du génocide. Et là, pour des pays comme la Belgique et la France, elle est assez évidente.
Alors vous aviez parlé tout à l'heure de cette façon de juger, on peut même presque dire l'histoire, alors que vous dites qu'il faut juger les faits, les personnes suspectées d'avoir commis des faits, comme le crime de génocide. Si vous voulez bien commenter sur cette façon, on pourrait même parler de cette façon pour la défense de s'inspirer des publications des intellectuels qui ils ne sont plus capables de nier l'existence du génocide et des Tutsis, mais par contre, ils essaient d'absoudre ces auteurs de responsabilité en jugeant pratiquement l'histoire, au lieu de juger les faits commis par les personnes suspectées.
Oui, effectivement, il y a une constante. On voit que, en tout cas pour les procès en Belgique, il n'y a jamais d'aveu. Donc, c'est la négation en bloc des faits, essayant de minimiser complètement et en ayant des zones d'ombre sur ce qui se faisait ou ce qui se passait à Kigali, par exemple, pour le dernier procès qui se déroulait, où les faits criminels se déroulent autour du fameux garage Amgar dans le centre-ville de Kigali, où l'accusé, finalement, reste extrêmement évasif sur son activité pendant les 3 mois du génocide. Ce serait utile pour la vérité et pour la justice qu'un accusé de génocide reconnaissent les faits et expliquent comment, en tant qu'individu, il a été impliqué dans la commission de ces faits horribles, indicibles, de massacres, de tueries. Mais les défenses utilisent plutôt la négation en bloc ou la minimisation, en disant on faisait du business pendant le génocide, mot pudique pour qualifier la réalité qui est plutôt des pillages, on nie les meurtres, on nie les viols, alors qu'on sait l'utilisation du viol comme crime et comme arme génocidaire pour effectivement atteindre les femmes et pour vraiment comme composante du génocide. Et ce serait utile que, et une tout autre type de défense si on avait un accusé qui reconnaît les faits et qui explique comment il a été amené à commettre ces faits-là. Non, ils choisissent de nier, et certains choisissent soit de dire « voilà, il y avait ce génocide en cours, mais moi je n'y ai pas participé », soit attaquent ce génocide en disant « ah non, non, il y avait ce double génocide, etc. » et invoquent des écrits de journalistes, de pseudo-chercheurs qui ont documenté à leur façon les événements pour essayer de diluer complètement la responsabilité, voire de renverser la responsabilité dans la commission du génocide. Certains de ces pseudo-journalistes ou chercheurs sont d'ailleurs font face à la justice pour négationnisme. La réponse judiciaire sera intéressante pour mettre fin à ce type de théories qui sont effectivement extrêmement insultantes pour les rescapés et qui, à mon sens, sont un obstacle à la réconciliation et à la construction d'un Rwanda apaisé qui peut tourner la page du génocide de 1994 sans pour autant oublier, mais en ayant à la fois la mémoire et la justice comme composantes essentielles pour reconstruire et poursuivre son histoire.
Alors, ces procès qui ont eu lieu en Belgique jusqu'à présent ont tous abouti à des condamnations pénales, bien sûr. Mais vous avez parlé aussi de la réparation, bien sûr. Dans certains cas, la réparation est octroyée également. Vous en êtes certainement pour quelque chose comme avocat. Mais est-ce que vous estimez qu'au-delà des individus condamnés pour leur participation dans son crime de génocide, est-ce que vous estimez qu'il y a une part de réparation qui devrait revenir à certains États, comme vous avez dit, les pays européens, qui ont laissé justement ce crime se commettre?
Alors effectivement, les parties civiles, elles peuvent se constituer partie civile au procès et donc être partie au procès, questionner les témoins, les accusés pour obtenir justice. C'est le principal moteur de toutes les victimes, les rescapés que j'ai assistés. Moi, ça me frappe. Ils font pas ça, évidemment, pour l'argent. Ils font ça pour être reconnus comme victimes et pour confronter leur bourreau, le regarder droit dans les yeux, lui demander des comptes et finalement obtenir qu'il soit condamné pour ce qu'il a fait. Je suis toujours très, très impressionné par la dignité des parties civiles dans leur démarche et autant frappé par l'indignité des accusés qui, face à leurs victimes, ne reconnaissent même pas les faits qu'ils ont commis. Alors, tout le monde a le droit d'être défendu, en ce compris un génocidaire, mais ce que je trouve, c'est que la manière dont on se défend, ça révèle beaucoup de la personne. Et moi, je retiens surtout cette dignité des victimes et des rescapés. Alors, elles obtiennent à la fin un dédommagement, mais souvent c'est face à des personnes qui sont totalement insolvables, donc elles ne touchent rien. On sait bien que l'argent ne remplacera jamais les êtres chers disparus. C'est comme dans un accident de la route, mais c'est ce que le système judiciaire prévoit. C'est une forme d'indemnisation, quelques milliers d'euros, mais même ça, ils n'obtiennent pas. Les parties civiles ne les obtiennent pas parce qu'ils sont face à des personnes insolvables. Alors je trouve que pour les crimes les plus graves, l'État devrait organiser et mettre sur pied un fonds d'indemnisation. Comme on a le fonds d'aide aux victimes pour des faits de droit commun, c'est assez paradoxal, on ne l'a pas pour les crimes les plus graves et pour des victimes étrangères. Vu notre responsabilité en tant que pays dans ce génocide, voilà, on l'a évoqué, le rôle de la Belgique, le rôle de la France encore plus, ça devrait entraîner cette responsabilité, une obligation morale de dire, eh bien, les victimes doivent pouvoir obtenir réparation et nous allons y contribuer. Parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'importance dans ce processus de réconciliation, c'est obtenir justice, obtenir réparation et puis on peut se réconcilier. Mais on ne peut pas se réconcilier avant d'avoir obtenu justice et réparation, parce que sinon, c'est une réconciliation imposée au détriment, finalement, des victimes. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. On l'a fait historiquement par le passé, notamment pour les biens spoliés des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec des fonds d'indemnisation. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans d'autres cas comme celui-ci? Alors, on invoque toujours le manque de moyens, le manque d'argent, mais je pense qu'il doit y avoir des solutions. Et c'est vraiment important que la Belgique, qui a encore une bonne quarantaine de dossiers en attente, on n'en a fait que 7 ou 8, il en reste 40, eh bien, c'est qu'on travaille d'arrache-pied pour juger ces personnes qui sont souvent venues se réfugier dans notre pays, à qui on a donné la nationalité belge, pour qu'on puisse rendre justice à ces victimes. Et alors, il y a la particularité aussi qu'à côté des victimes et des rescapés, il y a l'ASBL, l'association Ibuka, Mémoire et Justice, qui s'est constituée partie civile, parce qu'il y a évidemment les victimes de l'accusé qui peuvent se constituer partie civile, mais il y a toutes les autres qui ne verront jamais leur bourreau dans un tribunal. Et ces procès, moi, ça me frappe de voir dans le public des victimes et des rescapés. Alors, ils ne sont pas directement victimes de l'accusé qui est dans le box des accusés, mais ils viennent assister au débat parce que, finalement, c'était le même modus operandi dont eux ont été victimes, avec d'autres personnes qui ont tué leurs proches. Et quelque part, rendre justice dans une affaire X, Y ou Z rend aussi justice à toutes celles et ceux qui n'auront jamais le procès de leur bourreau. Et le fait qu'une organisation comme Ibuka, Mémoire et Justice se constitue partie civile au nom de toutes les victimes absentes, mais pour être partie au procès comme association, pour pouvoir intervenir dans le procès, pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir prendre la parole quand des énormités sont racontées par la défense pour se défendre lamentablement, pour pouvoir intervenir et pour pouvoir plaider au nom de toutes ces victimes qu'elle représente, ces victimes anonymes et invisibles, eh bien, c'est important. Et d'ailleurs, c'était une première, dans le dernier procès d'assises, ici en 2024, l'ASBL Ibuka s'est constituée partie civile et sa constitution de partie civile a été déclarée recevable et fondée par la cour d'assises, par les juges professionnels de la cour d'assises. Et en ça, c'est évidemment un message extrêmement important et ça rentre pleinement dans le rôle d'une organisation comme ça qui s'est créée dans l'année qui a suivi le génocide de Tutsi au Rwanda.
C'était en fait la même année, en fait. C'était en mois d'août, voilà. Donc la même année. Et c'est sur cette plaidoirie en faveur de l'engagement de notre association pour la justice et la mémoire que se termine notre cinquième épisode et dernier épisode de notre série qui a couvert l'importance pour des pays autres que le Rwanda, comme la France et la Belgique, de rendre justice aux victimes du génocide et des Tutsis au Rwanda en 1994. On a également abordé avec Maître de Soif la question du négationnisme ainsi que la réparation et les formes qu'elle pourrait prendre. Enfin, on a souligné le rôle des organisations des rescapés dans la recherche de la justice. Je remercie beaucoup mon invité Maître Alexis Dessoif pour son engagement à notre cause. C'est également la fin de notre série de podcasts Ibuka 30, réalisée par Ibuka dans le cadre de la 30e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Un tout grand merci à vous aussi pour votre attention, soutien et fidélité. Merci beaucoup.